Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure du festival Quai du Polar qui se tient actuellement à Lyon en présence de plus d'une centaine d'auteurs venus du monde entier, je suis très heureuse d'accueillir l'une des invitées, célèbre écrivaine américaine, autrice d'une trentaine de romans, dont une grande partie publiée en français, à l'image de ce nouveau titre, Dernière soirée, paru dans une traduction de Cécile Deniard aux éditions Albin Michel. Bonjour Lisa Gardner.
Bonjour, it's a pleasure to be here.
C'est un plaisir d'être ici.
Et je salue aussi Hélène Joguet qui sera votre voix française tout au long de cet entretien. Lisa Gardner, vous avez la particularité de mettre en scène plusieurs héroïnes différentes à qui vous consacrez des cycles. Et ici, on a la joie de retrouver Frankie Elkin, une femme vraiment pas comme les autres, sans attache, sans domicile fixe, la quarantaine, ancienne alcoolique, qui depuis qu'elle ne boit plus, consacre son temps et son énergie à retrouver des personnes disparues, souvent depuis longtemps, et que plus personne ne cherche vraiment. C'est une protagoniste vraiment atypique et très attachante. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
Ce que j'aime dans le personnage de Frankie, c'est qu'elle est très vulnérable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ce que l'on attend généralement d'une détective ou d'une héroïne. Mais en même temps, elle est très touchante, précisément à cause de sa vulnérabilité qui va devenir sa force. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle arrive à trouver les gens. C'est aussi pour ça que certains se confient à elle, là où ils ne le feraient pas d'habitude. Et tout ceci, ça nous donne de l'espoir. On se dit, si Frankie y arrive, nous aussi, pourquoi pas.
Frankie donne la priorité aux enfants, aux personnes pauvres ou issues de minorités. Pourquoi ? Parce que précisément, ce sont des victimes invisibilisées qui, au bout d'un certain temps, tombent dans l'oubli.
Effectivement, c'est un sujet vraiment d'actualité aux États-Unis. Il y a des centaines de milliers de personnes disparues dans notre pays. Et ces gens-là, personne n'a jamais cherché à les retrouver. Et il y a des gens comme Frankie, des femmes en particulier, qui s'impliquent et qui essayent d'aider d'autres femmes qui vont rechercher leur mari, leurs enfants, leurs filles disparues. Et c'est une histoire qui est très touchante parce qu'elle nous renvoie la manière dont on va être en lien avec nos communautés respectives et ça permet aussi de ressentir ce qui peut être la douleur de toute mère sur cette terre.
À travers le personnage de Frankie Elkin, vous nous montrez, Lisa Gardner, une Amérique vraiment très différente de l'Amérique brillante, gagnante. Là, on est vraiment dans les côtés sombres du pays. C'est ce qui vous intéresse aussi ?
Yes, I think also... I don't love social media.
Je n'aime pas les médias sociaux. Et l'une des raisons pour laquelle je ne les aime pas, c'est qu'ils sont toujours en train de vernir, de tout est bien polissé, bien propre. On a l'impression que tout le monde va très bien et que la coiffure est bien, les parents sont meilleurs et qu'on est des meilleures personnes qu'on est en réalité. Ce qui rend le personnage de Frankie encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'elle, elle est dans la vraie vie, qui est après tout celle de tout un chacun et qui a besoin d'aide souvent dans ce contexte-là.
Et d'ailleurs, elle pose la question, pourquoi tout le monde n'en fait pas autant ? Et quelle est la réponse à ça ? Pourquoi est-ce qu'en effet, nous ne consacrons pas nos vies à aider les autres, les plus démunis, ceux qui en ont besoin ?
C'est
intéressant parce qu'elle rencontre souvent des gens qui vont lui dire « Enfin, tu nous dis que tu cherches les personnes disparues, ça veut dire quoi ?» Et elle dit « Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ? Il y a forcément des gens dans votre entourage. » Il y a, si vous voulez, ces familles qui n'arrivent pas à faire le deuil, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de deuil congelé. Elle sait ce que c'est, puisque ses parents, à elle, sont morts aussi. Et je pense qu'elle doit comprendre, du coup, que c'est d'autant plus important de venir en aide aux autres.
Et vous, vous aimeriez idéalement aussi, Lisa Gardner, aider les autres, même si d'une certaine façon, avec vos livres, vous nous aidez, mais de façon plus concrète.
Je pense qu'on aimerait tous croire qu'il y a un héros ou une héroïne en chacun d'entre nous et qu'on peut faire quelque chose qui va vraiment faire une différence. Vous savez, moi, je vis dans les montagnes, il y a des randonneurs, et quand un randonneur disparaît, on s'y met tous, on essaie de se mettre tous ensemble pour le ou la retrouver.
Alors justement, ça nous amène au sujet de ce nouveau roman « Dernière soirée », puisque ici, Frankie se retrouve sur un « cold case », un cas non résolu en bon français, la disparition d'un jeune homme qui, pendant un week-end de randonnée qu'il faisait en montagne avec quatre amis pour son enterrement de vie de garçon, s'est volatilisé 5 ans auparavant. Alors juste avant d'entrer dans l'histoire, j'ai noté cette information que vous donnez dès le début. 1600 personnes au moins ont à ce jour disparu dans les réserves naturelles aux États-Unis. Ça me paraît beaucoup. Comment est-ce qu'on l'explique ?
C'est-à-dire que le problème, c'est peut-être parce qu'on ne fait pas de suivi de tout cela. Il y a par exemple un livre qui s'appelait The Cold Vanish, c'est-à-dire le fait que des gens disparaissent. Et il y a certains comtés, par exemple, ou certaines instances fédérales qui ne sont pas forcément d'accord sur ce qui s'est passé. Et lorsque moi, je fais des recherches pour un livre, eh bien, j'essaie d'apprendre des choses que justement je ne connaissais pas. Or, j'ai vu que quand j'ai je me suis intéressée à ce sujet. Je vois que, par exemple, les parcs nationaux, si vous voulez, n'ont pas des chiffres très précis. C'est plutôt la fondation Bigfoot qui est très précise et qui tient les comptes précis des personnes disparues. Alors, ceux qui sont à la chasse au Bigfoot, eux, ils ont des chiffres assez précis.
Alors, justement, parlons-en de ce Bigfoot. Parce que donc Frankie arrive au moment où l'expédition de secours annuel est sur le point de commencer. Il y a le père de la victime, ses quatre amis, enfin trois parce que finalement l'un est malade, plus un guide de montagne, plus une instructrice et son chien dressé pour les recherches, et enfin un spécialiste de Bigfoot. Alors là, vraiment, Lisa Gardner, il faut que vous nous rappeliez à nous, Européens et Français, ce qu'est ce mythe du Bigfoot aux États-Unis.
Bigfoot is like a legend in the United States.
Le Bigfoot, c'est une légende aux États-Unis.
Huge furry man on two feet or a biped.
C'est une espèce de grande créature de plus de 2 mètres. Et les gens pensent qu'il vit dans des zones reculées. Sasquatch, c'est un autre nom qui lui est donné. En tout cas, ce personnage qui est là, et les gens se disent, mais est-ce que c'est un être venu d'ailleurs, un alien ? Est-ce qu'il existe ? Et les gens qui y croient, ils passent beaucoup de temps dans la forêt pour le rechercher, parce qu'ils pensent qu'il est là, le fameux Bigfoot. Et pour cette raison-là, c'est des gens qui ont vraiment des connaissances assez précises des parcs, de la forêt, puisqu'ils le recherchent.
Et vous y croyez, Lisa Gardner, au Bigfoot?
You know, I'm kind of on the, I don't, there's plenty of things out there I don't know.
Vous savez, il y a beaucoup de choses que j'ignore, alors pourquoi pas? Après, il y a ce moment assez puissant. Je me souviens que j'ai vécu. Je lisais sur les disparitions. Et il y avait une famille qui avait dit qu'elle ne croyait pas forcément à Bigfoot. Mais ce qu'ils avaient vu, c'est que les équipes qui cherchent Bigfoot avaient consacré beaucoup de temps à rechercher leur fils disparu. Et que pour cette raison, tout à coup, ils avaient envie de croire à Bigfoot. Et ils avaient envie de croire, d'espérer aussi que peut-être leur fils, pourquoi pas, était dans une communauté Bigfoot. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a résonné en moi.
Donc nous voilà partis toutes et tous dans les montagnes, dans le Wyoming et dans un lieu dit la Vallée du Diable. C'est un nom fictif, mais qui déjà nous donne la chair de poule. Et dès le début, Frankie, qui n'imaginait pas que la randonnée c'était à ce point physique, commence à souffrir de tout son corps. Et je dois dire que moi qui ne marche jamais, j'ai bien ressenti les douleurs qu'elle peut avoir dans les mollets, dans les pieds, dans les jambes. Et vous, Lisa Gardner, vous faites de la randonnée ?
I am an avid hiker and I will confess I just
moi, je vous avoue, je fais beaucoup de randonnées et cette description de cette souffrance de Frankie, ça m'a un petit peu amusée. En fait, ce livre, il se passe pour l'essentiel dans la montagne, c'est la randonnée et c'est ce que je fais moi-même beaucoup. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir réfléchi à ce qui est nécessaire pour vivre ou survivre, les différents actes à poser, parce que en fait, moi, je fais de la randonnée depuis tellement longtemps que j'en avais presque oublié dans quel ordre les choses devaient se faire, est-ce qu'il comptait ou pas quand on randonne.
Donc vous aimez ça, ce n'est pas une torture pour vous, mais qu'est-ce que vous aimez en particulier? C'est un défi physique?
I love being outside. I'm happiest outdoors.
J'aime être
And I think they call it active meditation.
En extérieur. Et aussi, c'est quelque chose que je qualifierais de méditation active, en fait, ce que je fais. C'est-à-dire que quand je marche en randonnée, je mets un pied devant l'autre. Et lorsqu'on a ce rythme de marche, surtout lorsqu'on traverse un moment un peu difficile, on réfléchit.
Est-ce que c'est dans ces moments-là que vous réfléchissez à vos futures intrigues pour vos romans?
Yes, I do a lot of brainstorming while
hiking. Oui, je réfléchis beaucoup quand je marche. Et vous savez, randonner, c'est un petit peu comme écrire. On met un pied devant l'autre et il faut marcher jusqu'au bout, de même qu'on doit écrire jusqu'au bout pour atteindre la fin d'un livre. Là aussi, même si on est fatigué, il faut marcher, on ne peut pas s'arrêter.
Alors voilà, on a planté le décor. Maintenant, on va parler un peu plus de ce qui va se passer pendant cette randonnée dont on se doute que tout le monde ne reviendra pas intact.
Ils étaient partis à 5 en forêt pour un week-end d'enterrement de vie de garçon. Copains depuis l'université, tous possédaient une certaine expérience du bivouac, mais le plus chevronné de la vie générale, c'était Tim, le futur marié. Il pratiquait la randonnée avec son père depuis l'âge de 6 ans. C'était pour lui faire plaisir, cette idée de camping. Les autres n'auraient pas refusé un petit week-end golf ou un séjour dans un hôtel casino, mais c'était en forêt que Tim se sentait dans son élément et ils avaient donc pris la direction des montagnes. Avec tout le barda, sac à dos, tente, sac de couchage, réchaud à deux feux, conserve de haricots, saucisses et, oui, autant de bière et de whisky que 5 jeunes gens étaient capables d'en transporter. Autrement dit, beaucoup. Mais ils n'étaient pas complètement abrutis. Tim savait ce qu'il faisait et il avait personnellement supervisé le remplissage des sacs. La veille, ils avaient parcouru une 12aine de kilomètres à la recherche du lieu de bivouac idéal dans une des gorges encaissées au bord d'un large cours d'eau. Quand ils l'avaient trouvé, ils avaient posé les sacs, monté les tentes et attaqué le premier pack de 6, non sans avoir mis les 4 autres à rafraîchir dans l'eau glacée. La nuit tombait vite en cette saison, mais tout allait pour le mieux. Ils avaient fait un feu de camp, grillé des saucisses et mangé des haricots sauce tomate à même la boîte. Les blagues sur les pets s'étaient enchaînées pour leur plus grand plaisir. Deuxième tournée de bière, suivie d'un coup de whisky. Quelle quantité d'alcool peuvent boire 5 jeunes gens en pleine santé? Des litres. Mais ils n'avaient pas de rendez-vous à honorer, pas de voiture à conduire, ni de coup de fil intempestif auquel répondre, puisqu'il n'y avait pas de réseau. Seulement eux et le ciel étoilé. This is the movement of fear.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui l'écrivaine américaine Lisa Gardner, dont un nouveau roman vient de paraître aux éditions Albin Michel sous le titre « Dernière soirée » dans une traduction de Céline Deniard. On l'a dit, c'est un thriller qui, un peu sur les traces du projet Blair Witch, nous fait suivre une expédition de sauvetage en montagne et en forêt et qui, bien sûr, ne se passe pas bien du tout. Avec de surcroît, pour toute l'équipe, la sensation d'être espionnés, voire en danger. Et nous aussi, en lisant, on est terrifiés de ce qui peut arriver. Comment est-ce que vous construisez vos intrigues, Lisa Gardner? Est-ce que ici, par exemple, vous avez pu vous inspirer d'une expérience de randonneuse, de moments où peut-être vous aussi, vous avez eu peur, voire très peur pour votre vie?
Well, I don't structure
or plan en fait, je ne structure pas ce que je fais, je ne prévois pas à l'avance, je ne sais même pas ce qui va se passer à la page d'après.
But I love psychological suspense.
Mais j'aime le suspense psychologique.
My big challenge in this book.
Et là, ce qui était intéressant dans ce livre, c'est que je n'étudiais pas la psychologie d'une seule personne. C'est-à-dire que là, on a une équipe, on a une psychologie d'équipe. Et en fait, les personnages s'en sont sortis eux-mêmes dans cette espèce d'écheveau qu'ils ont dû démêler ensemble. C'est comme si j'avais été là pour juste assister, les voir faire, en fait, dénouer cet écheveau.
Oui, parce que ce qui est très réussi, c'est que Frankie, alors que c'est un peu le maillon faible de l'expédition, elle profite de cette randonnée pour aller voir chacune des personnes du groupe et poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette dernière soirée où apparemment tout le monde n'a pas dit la vérité. Donc Frankie, quelle que soit l'épreuve physique, elle continue de faire son enquête. Mais vous nous dites, Lisa Gardner, que vous ne saviez pas où vous allez, vous ne saviez pas ce que vous alliez découvrir au bout du chemin.
Yes, when people come up to me and say, I had no idea.
Lorsque les gens me disent, alors je savais absolument pas comment ça allait finir, je réponds, bah oui, moi non plus.
Mais comment vous faites ?
Magic moment as an artist.
C'est un moment magique pour l'artiste. Vous voyez, Shakespeare in Love, vous connaissez ce film. Je ne me souviens plus du nom du réalisateur. Mais peu importe, enfin bref, il dit ça ne va jamais se faire, ça ne va jamais se produire, mais ça se fait. Et il y a ces moments où on se dit, mais ce livre, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas arriver au bout. Et tout à coup, ça y est, tout se dégage. C'est un peu la magie de l'écriture, ça.
La magie et un petit miracle formidable. Alors, sauf qu'ici, je ne vais pas évidemment révéler les rebondissements, mais la pauvre Frankie, elle est vraiment quand même presque en danger de mort. Et elle se pose la question, avez-vous déjà imaginé votre mort? Et vous, Lisa Gardner?
Oh, I actually never have. I'm so busy imagining everyone else.
En fait, j'ai jamais imaginé ma propre mort. Vous savez, ça me prend tellement de temps de réfléchir à la mort des autres que j'ai pas eu le temps de penser à moi.
Well, and sometimes I kill my readers too. You can go online.
Et puis parfois, je tue mes lecteurs. Figurez-vous, vous allez sur mon site internet. Il y a un tirage au sort. Vous dites voilà, j'aimerais que je sois tué ou quelqu'un de mon choix soit tué dans votre prochain livre. Tout le monde se propose. Je fais un tirage au sort. Effectivement, je garde le nom et la personne est tuée dans mon futur ouvrage.
Alors, est-ce que d'une certaine façon, quand même, vous écrivez, vous dites que vous ne pensez pas à votre mort très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de superstition ? Imaginez le pire pour que ça n'arrive pas dans la vraie vie.
Yes, but I think it's also part of the...
Oui. Mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt ou l'attrait de ce livre, c'est qu'il va permettre au lecteur ou la lectrice d'imaginer le pire qui se passe pour autrui et que les personnes vont pouvoir imaginer, si elles étaient à leur place, comment elles arriveraient à résoudre le problème. Voilà.
Et d'où vient cette fascination pour faire mourir les gens dans vos romans, Lisa Gardner ?
Well, really, I find it fascinating to get away with murder.
Moi, je trouve surtout ce qui est fascinant, c'est de s'en tirer quand on a fait un meurtre et ne pas se faire prendre.
The psychology behind who does such a thing.
Vous savez, la psychologie des gens qui font ce genre de choses, c'est ça qui m'a amené, dans un premier temps, à écrire ce type d'ouvrage. Mais plus, si vous voulez, je lis sur ce sujet, je vois que c'est des gens qui ont un esprit très analytique. En général, ils sont hyper malins et c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir. Et en fait, moi, ça m'amène à résoudre le problème de leur fonctionnement psychologique. Et moi, ce que j'aime dans la vie, c'est résoudre des problèmes.
Alors justement, la question que je me posais, est-ce que vous êtes soulagée quand vous finissez un roman policier? Parce que d'une certaine façon, vous avez sauvé peut-être une personne, vous avez trouvé une réponse, compris quelque chose ou mis un peu d'ordre dans le chaos de notre monde.
Yes, my family will tell you I'm happy exactly one day a year, and it's when
votre ma famille vous confirmera que je suis heureuse un jour par an, et c'est le jour où je mets le point final à mon livre en cours. Sachant que le lendemain, je commence à travailler sur le prochain roman.
Et en même temps, je vous regarde, Lisa Garner, vous êtes tellement souriante, tellement rayonnante, vous avez l'air tellement solaire, on a du mal à imaginer que vous pouvez être hantée par des histoires sombres de meurtres et d'horreur même.
I was just talking about this earlier today.
J'en parlais aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous allez à des conférences d'écrivains, il faut toujours parler à ceux qui écrivent des polars. C'est nous, les joyeux de rire. Effectivement, nous, on a déjà tué tout le monde dans nos films, donc après, on est super détendus, on va très bien.
Donc, d'une certaine façon, la littérature policière, c'est une forme de catharsis, ce qu'on met dans l'écriture. On le fait pas ailleurs et voilà, on a une vie formidable à côté.
Yes, I would agree with that.
Oui, je suis d'accord.
Alors, vous en parliez tout à l'heure et c'est ce qu'on découvre dans les remerciements. Vous mettez aux enchères le droit de nommer une personne réelle dans vos livres et ensuite les bénéfices vont à des associations, si j'ai bien compris. Alors, comment ça marche? Si moi, par exemple, j'aimerais être citée dans votre prochain roman, qu'est-ce que je dois faire?
So in the beginning of
Alors,
my career,
au début de ma carrière, j'avais besoin de noms, de patronymes, donc je prenais les noms des gens que je connaissais. Parce que quand on écrit un livre, tout à coup, vous avez 20, 30 personnages, il faut bien les nommer, ces gens-là. Et puis au bout d'un moment, j'avais épuisé le stock des noms de gens que je connaissais. Alors, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui aimeraient faire tuer des gens qui connaissent. Donc, j'ai lancé ce tirage au sort où on peut, ça s'appelle Kill a Friend, Maim a Body, c'est-à-dire on peut tuer quelqu'un ou torturer quelqu'un qu'on connaît. Et, par exemple, vous avez une femme qui avait écrit en disant « Je voudrais qu'un tel, mon mari, par exemple, soit le sale type dans le livre et qu'il soit tué. » Moi, je n'ai rien à juger. J'ai fait comme elle a dit, elle avait gagné. J'ai tué le monsieur.
Puisqu'on parle de nom, je fais une petite parenthèse. Vous écrivez aussi des livres sous un autre nom, sous un pseudonyme. Pourquoi? Est-ce que c'est une carrière à part pour vous, Lisa Garner?
It's the beginnings of my career.
C'était les débuts, en fait,
I first started
de ma carrière.
Out writing these smaller
j'ai
genre
commencé,
fiction.
En fait, par écrire, si vous voulez, ce type de genre de fiction qui m'a permis d'entrer sur le marché puis d'apprendre aussi, me faire la main. Mais assez rapidement, j'avais des idées beaucoup plus vastes. J'ai eu envie d'écrire des choses qui étaient des histoires de crimes, des policiers. Donc, à ce moment-là, j'ai changé de genre littéraire et j'ai aussi changé de nom.
Est-ce que c'est aussi lié à vos lectures d'enfants, d'adolescentes, ce goût pour le roman noir?
Oh, very much. Silence of the Lambs was huge.
Le silence des agneaux.
My grandmother
a beaucoup compté.
Earl Stanley Gardner.
Ma grand-mère adorait Earl Stanley Gardner.
Stephen King
aussi.
Sidney Shelton,
plein d'autres auteurs. Mais il y avait beaucoup de violence, beaucoup de sexe, voilà.
Qu'il n'y a pas dans vos romans.
In the beginning of my career,
au début, en fait,
à
mes débuts, quand j'ai commencé à écrire, du fait du succès de Silence des agneaux, justement, en fait, l'éditeur m'avait demandé d'avoir une violence un peu plus explicite à ce moment-là, ce qui ne me posait pas de problème. Si ça me permettait de percer et d'avoir davantage de liberté, j'ai acquiescé, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, mais maintenant, je suis beaucoup plus dans la violence psychologique qu'autre chose.
Donc, je ne suis pas sûre d'avoir les moyens de participer aux enchères pour être un personnage dans votre prochain livre. J'aurais bien aimé pourtant rencontrer Frankie Elkin, qui est vraiment une femme formidable et très attachante. Je me demandais, qu'est-ce que vous lui avez donné de vous à cette héroïne? Qu'est-ce que vous avez en commun toutes les deux?
Oh, what I love about Frankie
ce que
is
j'aime,
that
chez Frankie, c'est qu'en fait, où qu'elle soit, elle est toujours sur la touche, elle est outsider. Comment, si vous voulez, vivre quand on est avec des gens qui ont une vie normale, elle ne comprend pas ça, tout simplement, c'est pas son monde. Lorsqu'on est artiste, écrivain ou écrivaine, en l'occurrence, bien souvent, on se sent un petit peu détaché des choses qui sont en train de se passer, on est un petit peu en retrait. Tout le monde sait faire la causette, la conversation, avoir une vie sociale, alors que nous, c'est plutôt, je suis en train de prendre des notes, en fait, pour mon prochain roman, en observant tout ça.
Donc, vous êtes un peu en dehors de la société, vous diriez. Est-ce que vous êtes seule pour autant ? Vous vous sentez seule ou pas ?
Non, because I have like 1,000 voices in my head.
Parce qu'il y a à peu près 1,000 voix qui parlent dans ma tête en même temps. Il y a vraiment beaucoup de monde qui se bouscule dans cette tête.
Donc il y a encore beaucoup de livres à écrire.
Yes, ouais. Very much. What is it, a joke among many of us suspense novelists?
Vous savez, entre nous qui écrivons des thrillers, on dit que, bien sûr, on est les gens qui entendent ces voix qui nous parlent dans nos têtes, qui nous disent tue-le, et vous savez quoi ? Nous, on arrive à s'en sortir, à ne pas se faire prendre.
Bravo. Je voudrais finir avec un mot à la fin de vos remerciements. Vous dites votre admiration aux libraires et aux bibliothécaires qui, en effet, sont dévoués et qui permettent aux lecteurs de ne jamais être en manque. De fait, comment est-ce que vous réagissez à cette liste de livres qui ont été bannis aux États-Unis des bibliothèques?
It is a very sad time right now in the United States.
C'est une période très triste que nous vivons aux États-Unis. Ma grand-mère nous emmenait à la bibliothèque quand on était petite parce qu'elle était dans une ferme et elle avait envie de voir ce qui se passait ailleurs. Être quelqu'un d'autre, dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est très important. Et en fait, quand vous commencez à interdire ça, vous êtes en train de détruire les gens, les couper en morceaux littéralement.
Mais comment est-ce que vous expliquez ce phénomène ?
Je
n'ai pas d'explication.
What a lot of authors are doing is kind of banding together to do more, to banding together to do more.
Ce que font les auteurs, c'est non pas interdire ensemble, mais plutôt se liguer pour essayer d'agir, d'envoyer des pétitions. Franchement, je pense qu'on est parti dans la mauvaise direction.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce qui est une forme de censure ?
La guide des auteurs fait beaucoup de choses par rapport à ça. Elle soutient, par exemple, des libraires qui sont inquiétés parce qu'ils ont certains livres. En fait, il faut marteler le message. Il faut continuer à dire ça ne va pas, c'est de la censure. C'est vraiment une intolérance croissante. Il faut arrêter ça. Il faut revenir à ce que nous avons vécu avant.
Vous êtes un peu inquiète pour ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, Lisa Gardner ?
I think it is much easier to write fiction right now, where I can
control what's going to happen next. C'est beaucoup plus facile actuellement d'écrire de la fiction, parce que, si vous voulez, d'abord j'écris ce que je veux, et puis en plus je sais comment ça va se passer à la fin. C'est moi qui décide. Alors que dans la vraie vie, on est très très anxieux, nous tous, face à tout ce qui est en train de se passer au niveau mondial.
Et on le comprend. Ben, la solution, c'est de venir en France. Où aucun livre n'est interdit et où on vous lit avec grand plaisir, Lisa Gardner, et on va pouvoir vous retrouver tout ce week-end à Lyon. Vous serez en débat et en dédicace pour parler de ce nouveau roman dont je rappelle le titre « Dernière soirée », traduit de l'anglais par Cécile Deniard et qui a paru aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Lisa Gardner.
Thank you so very much.
Merci beaucoup.
Et merci à Hélène Jocquet, qui a été votre interprète tout au long de cet entretien. Merci beaucoup.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.